écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Junier. Simara. Mise en scène production Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sur cette marque sont la propriété de l'auteur. Je vous attends. Regarde.
Il y a des pancartes qui portent mon nom.
Tout le monde se bat contre la police. La manifestation se transforme en bagarre. Et eux, des jeunes, hors manifestants, se font infiltrer à eux et créent des troubles. Ils se mettent dans un renfoncement. Et attendent. Pour pouvoir s'en aller. On brise des vitres. On met le feu à des voitures. La police arrive. La bagarre devient plus forte. Tout le monde se bat contre la police. Ça dure un certain temps.
Fermez la portière.
Puis, avec des bombes lacrymogènes, des jets d'eau, on fait fuir les manifestants. Il ne reste plus que de l'eau à terre, des débris de verre, des voitures brûlées, des victimes visées. Un agent vient à lui, lui demande « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu manifestais toi aussi ?» Je lui dis « Non monsieur, j'attendais que ça finisse pour continuer ma route. » « Alors, tu ne manifestes pas ?» Non, monsieur. Je m'occupe à mettre des pubs dans les boîtes aux lettres. L'agent regarde les pubs dans la sacoche. Viens, tu peux t'en aller. Gilles s'en va, poneux et honteux, parce qu'il a l'impression d'avoir trahi les manifestants. Il aurait dû dire qu'il en était un. Mais on l'aurait emmené au commissariat. Et là, il aurait été obligé de répondre à des tas de questions. On l'aurait pris pour un manifestant casseur. Il aurait été en prison. Pauvres parents, ils auraient été ennuyés. Ils l'auraient pris pour un casseur. En plus de ne plus pouvoir les aider, ils auraient été obligés, c'est de l'aider lui, en lui apportant à manger. Mais c'est pas facile de militer lorsqu'on est pauvre. C'est pour ça que la plupart des pauvres ne militent pas. À midi, il écoute à la radio les informations Et l'on dit qu'il y a eu des casseurs au centre-ville et que ça a créé beaucoup de dégâts. Gilles dit à son père, c'est faux. Mon père lui demande, tu y étais? Tu as vu? Oui, j'ai vu. Et j'ai parlé à un manifestant. En réalité, c'était des chômeurs, des gens qui étaient dans la précarité, qui ont manifesté dans le CAM. Mais des casseurs se sont infiltrés dans la manifestation et ont créé des dégâts. Ils voulaient se créer des désordres pour pouvoir voler. La police est venue et a chassé tout le monde. Même un policier m'a interpellé. La mère lui demande, « Tu as manifesté, toi ?» J'ai lui dit, « Non, mais j'étais coincé et je ne pouvais pas sortir du quartier. » Son père lui dit, « Il ne faut jamais manifester, mon petit. » J'ai lui dit, « Il faut bien montrer que l'on est contre la vie qu'on nous fait mener. » Son père lui dit, « Ces gens-là sont contre le travail. Ils ne veulent rien faire. Aimerait c'est que la société leur paye à ne rien faire. » Tu dois respecter ton travail, ton patron et la société. C'est la seule façon de vivre. Je lui dis, mon patron me paye à coups de lance-pierre, me prend pour un imbécile, et tu veux que je le respecte? Mon père lui dit, tu vas pas avoir des idées de gauchiste, non? Je lui dis, ils ont peut-être raison, mon père lui dit. De tout casser? Je ne crois pas ça, mais de demander une vie meilleure, plus juste, à tout le monde, que tout le monde ait du travail, mon père lui dit. Quand on veut du travail, on en a. Pas toujours la preuve, toi. Lorsque tu en cherchais et que tu n'en trouvais pas, ton père lui dit, oui, oui, c'est dur, mais on doit respecter les chefs. J'ai lui dit, on doit les respecter, oui, mais que lorsqu'ils sont justes. La mère dit, arrêtez de parler comme ça, ça me fait mal à la tête. Et puis, les voisins risquent de nous prendre pour des gauchistes. Le père, l'après-midi, lorsqu'il ne travaille pas, va jouer aux cartes au café de la rue. Sa femme lui dit toujours, « Fais attention, ne rentre pas trop tard et ne joue pas avec de l'argent, tu as bien compris. » « Ne te fais pas de soucis. » Et il sort. Le café est un petit café prolo. Ça sent le mauvais vin et la cigarette, c'est sombre. Il y a toujours quelques joueurs de cartes, des vieux. Le big coquet, un petit gros, cheveux gris, habillé d'un tablier bleu et une cigarette au bec. Il n'aime pas les joueurs de cartes parce qu'ils dépensent peu en boisson. En entrant, Jules est salué par trois joueurs qui sont à table. Un des trois vieux, très quelconque, ces vieux sont très quelconques. L'un des vieux dit, Viens, t'asseoir. On va commencer. Tu viens bien tard. Il se met à table et dit, je me suis disputé avec ma femme et ne comprends pas que je puisse aimer jouer ici. Miss Coquet demande, qu'est-ce que je te sers, Jules? Je dis, comme d'habitude, un rouge. Miss Coquet le sert, tiens, merci. Miss Coquet lui dit, c'est du marnia, du bon, merci, t'es gentil. Il brusquetait son retire. Il retourne à son comptoir. Il sait que l'autre ne va boire que son verre de vin. Et il va rester toute la journée à jouer aux cartes. Pendant ce temps, oui, pendant que le père joue aux cartes, sa femme, à la maison, elle repasse le linge. Elle n'aime pas ça parce que ça lui fait mal aux reins. En plus de son linge, elle fait celui de la Roland et des voisins pour se faire un peu plus d'argent. Elle se dit que c'est plus simple pour une femme de trouver du travail. Son mari, à part charger les camions, il ne trouvera jamais rien. Elle a toujours quelque chose à faire, et toute la journée. Gilles va la voir, lui demande, « Tu veux que je t'aide ?» Elle lui répond, « Qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne sais pas repasser. » Elle lui dit, « Apprends-moi. » Elle lui dit, « C'est un travail de femme. Il n'y a que les femmes qui font ça comme il faut. » Ah ! À l'armée, les hommes le faisaient bien. Elle lui dit, « Peut-être bien, mais ils le faisaient mal. » Pour repasser, elle se met dans la grande salle à manger. Lieu qui sert à rien, puisque la famille se réunit dans la cuisine. Normalement, l'on ne va pas dans la salle à manger, parce qu'il ne faut pas salir ni abîmer les meubles. C'est pas des meubles de prix, mais on y tient. Alors à quoi ça sert une pièce où on ne doit pas y aller? À montrer qu'on en a une pièce comme ça. À recevoir, quoique les gens que l'on reçoit, on préfère les recevoir à la cuisine. Denise a mis sur la table de la salle à manger pour pas que ça s'abîme une toile cirée. Par-dessus, une vieille couverture. Et poser un drap. Sur une chaise, la piste de linge repose. Sur une autre chaise, il y a le linge à repasser. Pour repasser, elle aime ses aises. Ça la fatigue, mais elle rouspète de repasser. Mais en même temps, elle est heureuse de voir son linge bien propre, repassé et bien plié. Elle dit à Gilles, « Va dans ta chambre, te reposer. » Il y va. Une fois dans sa chambre, il s'allonge sur son lit, enlève ses chaussures, les volets de sa chambre sont fermés, on ne les ouvre pas parce que Gilles va se coucher la journée. Ce n'est pas bien que l'on voie un jeune homme au lit. L'intimité doit rester. Gilles ne dort pas la journée, il se repose, c'est tout. Pourquoi ne sort-il pas? Pour aller où? Et puis le manque d'argent le ferait traîner dans les rues sans but. Il s'est aussi promené le matin en travaillant. Oui, il s'est assez promené le matin en travaillant. Il n'a pas d'amis, ni de petite amie. Il n'a plus revu Jeanne. Elle n'est peut-être plus à Lyon. Des fois, il pense à elle. La nuit, ça l'excite. Mais très vite, ses rêves sont devenus de plus en plus flous et ne la voit plus vraiment. La journée, il pense à la vie qu'il mène. Est-ce qu'il va toujours continuer à vivre comme ça? Ce n'est pas qu'il aime pas sa vie, mais il aimerait qu'elle change un peu. Gilles, avec sa pureté, est heureux comme il vit. Il est habitué à sa vie, vie simple avec de petits besoins. Il n'a pas de grandes ambitions et puis il trouve que cette vie qu'il mène est une vie pure, sans superflu. Les jours passent. Pour mieux aider sa famille, Gilles, des fois, cherche un travail mieux payé. Il va se présenter à des entreprises de vêtements, de tissus, magasin d'alimentation. Il n'est pas pris. Soit parce qu'on a besoin de personnes, soit parce qu'il n'a jamais travaillé dans le secteur de la vente ou du magasinage. Alors il continue à faire son travail de mettre dans les boîtes aux lettres ses pubs. Lorsqu'il va chez le marchand de journaux de sa rue pour acheter des cigarettes d'un voisin, le marchand, un gros homme, grand, cheveux châtains, habillé de noir, lui dit « C'est toi qui me fais de la concurrence déloyale ?» Gilles, rouge de honte, lui demande « Comment, monsieur ?»« Comment, monsieur ?» L'autre lui dit « En mettant dans les boîtes aux lettres des journaux gratuits, les gens ne viennent plus m'acheter des journaux. Alors que toi, tu les donnes gratuitement. Pourquoi veux-tu qu'ils achètent des journaux alors que tu les mets gratuitement ?» Je lui dis, « J'y suis pour rien, monsieur. » Ou tu dis, « Tu n'as qu'à ne plus en mettre. » Je lui dis, « Mais c'est mon travail, monsieur. Mon travail me ruine. Je suis navré, monsieur, mais ce travail-là me fait vivre. Alors, j'ai plus qu'à fermer boutique. » Gilles est de plus en plus gêné. L'autre lui demande, « Que faire ?» Gilles lui dit, « Je sais pas, monsieur. » L'autre lui dit, « T'empêche. Je vais t'empêcher de mettre les journaux. Si vous faites ça, je vais être au chômage, monsieur. » L'homme lui dit, « Bien, mais moi, je le serai à cause de toi. On fait de la pub anti-tabac, les journaux ne se vendent plus, qu'est-ce qui me reste ?» Je lui dis, « Vendez des médicaments, j'ai pas le droit. Des livres de poche, les gens ne le lisent plus. » « Non, je vais faire comme toi. » Je lui dis, « Pourquoi pas ?» L'autre lui dit, « Je te ferai de la concurrence. » Et ils rient tous deux. Gilles se dit que c'est pas facile, la vie. En fin de matinée, Gilles rentre chez lui. Il voit un homme, petit, maigre, qui semble malade. Il porte un gros paquet sur ses épaules. Il voit que l'homme a des difficultés à marcher. Il demande à l'homme, « Je peux vous aider, monsieur ?» L'homme le regarde bien et lui dit, « Oui, bien sûr, merci. » Et il porte le paquet à deux. L'homme dit à Gilles, « Je te connais pas, toi. » Gilles lui dit, « Moi non plus. » L'homme lui dit, « Ça se voit. Vous n'allez pas souvent à la messe. Je suis le prêtre de ta paroisse, mon petit. Et toi ?» Gilles soupire, gêné, et dit, « Je suis Gilles, le sueur. » Le prêtre lui dit, « C'est bien, Gilles. » Gilles lui demande, « Nous allons où ?» Le prêtre lui dit, « Presbytère. C'est des vêtements pour les pauvres. » Arrivé au presbytère, le prêtre lui dit, « Tu vas prendre un petit café ?» Gilles lui dit, « Non, merci. Mais si, tu m'as aidé, c'est normal que je te propose un café. » Il ouvre la porte du presbytère. Entre. Gilles est gêné. C'est un couloir sombre avec des piles de porte-manteaux au mur, remplis de vêtements. Et il y a sous les vêtements des chaussures. Le prêtre ouvre une porte qui est en face de la porte d'entrée. Entre. Ils portent tous les deux le paquet de vêtements. La pièce est un espèce de séjour avec de vieux meubles espagnols. Ça sent le cuir. L'on se sent bien. Il y a un coin où il y a une table basse remplie de papier, une armoire à deux portes, un coin salon avec des fauteuils en cuir marron usé qui sentent la cire. On se sent bien, la pièce est fraîche. Gilles a l'impression d'être à la campagne. Le prêtre lui dit, mets le paquet à terre. Voilà. Il le laisse à terre dans un coin de la pièce. Assieds-toi, va dans un fauteuil. Je vais faire le café. Je lui dis, pas la peine de vous redéranger, monsieur. Le prêtre lui dit, mais je devais le préparer pour moi. Ça ne me dérange pas du tout. Et il s'éloigne. Gilles se sent gêné. C'est la première fois qu'il est près d'un prêtre. Un prêtre, pour lui, c'est quelqu'un. Quelqu'un de particulier, à part les hommes. Il ne sait pas comment se comporter avec lui. Le prêtre revient avec un plateau qu'il va poser sur la table qui est en face de Gilles. Il fait le service et dit, j'ai plus de café, il ne sera pas très fort, j'ai plus de lait non plus, à part le sucre. Gilles dit, ça ira, merci. Pour le sucre? Non, merci. Merci. Yeah.
Prends là. Voilà, ça suffit. Voilà.
Et il s'assoit en face de Gilles. Le café est brûlant. Gilles se dit qu'il n'a pas beaucoup de goût. Il est chaud. Le prêtre lui demande « Qui es-tu ?» Je lui dis « Je suis Gilles Le Sueur. J'ai 20 ans. Je vis chez mes parents. Mon père fait des petits boulots et ma mère les ménages. On se débrouille. » Le prêtre soupire et dit « La vie est dure pour tout le monde. » Je lui dis « Non, pas pour tout le monde. Il y en a qui profitent de la misère. » Le prêtre lui dit « Profiter des peines des autres, ça ne rend pas heureux. Ces gens ne pensent qu'à l'argent. Et lorsqu'on a trop d'argent, on en est prisonnier. Il faut les plaindre et se dire qu'un jour ou l'autre, ils paieront leur égoïsme. » Je lui dis « Oui, mais en attendant, il faut bien vivre, et puis eux, ils font bien souffrir les autres. » Le prêtre lui dit, la joie se trouve dans la simplicité. Gilles se sent attiré par ce prêtre qui a l'air si fragile. Il tremble tout en prenant sa tasse. Il se dit que lui aussi doit avoir faim. Le prêtre soupire et dit « Je suis issu peut-être de gens plus pauvres que les tiens. Je ne cherche pas à monter les enchères sur celui qui est le plus pauvre que l'autre. Simplement, pour te dire, c'est que je suis issu d'une famille sûrement très modeste, parce qu'elle m'a abandonné lorsque j'étais très jeune. Je me suis trouvé orphelin, en plein Berry. Enfin, orphelin, ça ne veut pas dire que mes parents soient morts, mais je me suis retrouvé seul. » Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Si Marat, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.